Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlerons ce soir dans votre émission des critiques d'une partie de la classe politique française contre la justice après la condamnation lundi de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Mais pour l'instant, nous retrouvons notre invité pour parler des arrestations d'opposants au Bénin.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Mathias Oumpe, bonjour.
Bonjour.
Administrateur du programme de gouvernance politique à Ossiwa à Dakar. Ossiwa, c'est initiative pour les sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest. Au Bénin, Rekia Madougou, candidate recalée du parti d'opposition Les Démocrates à la présidentielle du 11 avril prochain, a été arrêtée pour association de malfaiteurs et terrorisme. Fallait-il s'attendre à ce dernier développement dans un contexte préélectoral tendu au Bénin ?
Disons qu'on ne pouvait pas s'attendre, du moins moi personnellement je ne m'attendais pas à ça. Je savais très bien qu'étant donné, je dirais, la dureté de son ton depuis que sa candidature a été recalée, et étant donné la sévérité du jugement qu'il porte sur le gouvernement, qui pourrait connaître quelques tracasseries, mais je ne m'attendais pas à ce que qu'elle soit arrêtée, surtout pas sur
association de malfaiteurs et terrorisme.
Voilà, exactement. Je ne m'attendais pas à cela.
Est-ce que vous considérez donc que c'est un durcissement du ton du côté du pouvoir, une nouvelle étape cette confrontation avec l'opposition ?
Oui, non, disons que le pouvoir a toujours eu le ton assez dur depuis que le président Talon est au pouvoir. Et donc, j'ai le sentiment qu'ils arrivent assez vite à éviter de laisser la place pour que la contestation puisse s'installer. Et donc, je pense qu'ils anticipent et qu'à la moindre occasion, ils arrivent à arrêter ceux qu'ils considèrent comme étant figures de proue des mouvements de contestation. Vous vous rappelez, après les législatives de 2019, même un ancien président de la République a été littéralement séquestré chez lui pendant des semaines.
Vous voulez parler donc, de Thomas Boni-Yayi ?
Thomas Boni-Yayi, exactement. Parce que, justement, en ce moment, il était perçu comme celui qui contribuait à nourrir, n'est-ce pas, les protestations, etc. Et donc, ce pouvoir a toujours été dur.
L'arrestation de Rekia Madougou, c'est simplement lié au fait que, du côté du pouvoir, on considère que c'est peut-être le nouveau leader de l'opposition.
Je ne peux pas dire que c'est seulement ça, parce que, comme vous le savez, le procureur est sorti avec des accusations aujourd'hui. Donc, il faut attendre qu'ils en apportent la preuve. Donc, tant qu'on n'a pas apporté la preuve, je considère que Mme Madougou est innocente jusqu'à ce que le procureur apporte la preuve de ses accusations. Maintenant, ceci étant dit, il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le pouvoir préfère éviter que ceux qui sont capables d'entraîner de la mobilisation soient en liberté et soient en mesure, n'est-ce pas, de créer des troubles dans le pays.
De toute façon, M. Oumpe, la candidature de Mme Rekia Madougou à la présidentielle du 11 avril prochain n'a pas été validée par la Cour constitutionnelle. Que pouvait encore ou que peut encore faire l'opposition pour obtenir l'attention du pouvoir sur ce sujet ? Ou un changement de position du pouvoir concernant ce sujet ?
Vous savez, en démocratie, vous avez au moins deux voix, n'est-ce pas ? Je pourrais ajouter une troisième voix, n'est-ce pas, pour vous exprimer et participer au fonctionnement de la cité. Il y a les voies que la loi prévoit. Par exemple, dans le cas des élections, c'est la candidature, c'est la participation aux élections, etc. Si vous n'avez pas formellement cette voie disponible, vous avez la capacité, n'est-ce pas, de mobilisation des citoyens pour vous faire entendre. Et la troisième voie, c'est la voie de la sortie. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous crier votre mécontentement, vous ne pouvez pas participer, vous pouvez sortir. Comme par exemple aller en exil, etc. Et donc, une fois que les voies formelles de participation au processus électoral ont été fermées, il reste la voie de la mobilisation ou la voie de la démission. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, la candidate Madougou a choisi la voie de la protestation et de la manifestation. Et
justement, ils étaient soupçonnés de vouloir organiser des troubles pendant l'élection présidentielle.
disons que c'est au procureur d'apporter la preuve de ces accusations que je trouve extrêmement graves. Parce que ce n'est pas seulement organiser des manifestations. Ils accusent Mme Madoukou de formater des assassinats ou de préparer des assassinats de personnalités politiques. Je pense que c'est suffisamment grave pour que le procureur se sente obligé d'apporter des preuves de manière transparente à ce genre d'accusations. Parce que c'est difficile d'accepter dans notre pays qu'on continue sous des prétextes qu'on ne peut pas soutenir par des preuves claires d'arrêter des leaders politiques et de les empêcher, n'est-ce pas, de participer au fonctionnement de la démocratie chez nous.
Et dans ces conditions, comment voyez-vous l'élection présidentielle du 11 avril prochain ?
Non, disons que ça fait longtemps qu'on savait que ces élections seraient comme, mais ceux qui disent un match amical, moi je l'appelle en règle générale un match d'entraînement, c'est-à-dire que c'est un match où c'est la même équipe qui est divisée en deux et qui joue, dont une partie joue contre l'autre. Et donc c'est ce que ça va être si ceux qui sont exclus du processus ne sont pas capables de s'exprimer, de se faire entendre. Je sais qu'au-delà des acteurs politiques, il y a d'autres forces qui continuent de parler à ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils comprennent que le jeu démocratique ne vaut la peine que lorsqu'il est inclusif. Sans pouvoir préjuger de la capacité de ceux qui initient ce genre de médiation, quand j'ai vu le comportement de pouvoir depuis quelques années, j'ai le sentiment que quand ils se fixent un cap, ils poursuivent la marche vers ce cap. Et donc, si je devais me fier seulement à cela, je n'attendais rien. Mais on ne sait jamais, je ne peux pas préjuger, n'est-ce pas, de la capacité de tous ceux qui interviennent pour permettre une sorte d'ouverture pour que le jeu soit un peu plus inclusif.
Mathias Oumpé, merci beaucoup.
À bientôt.
Mathias Oumpé, administrateur du programme de gouvernance politique à Ossiwa, initiative pour les sociétés ouvertes en Afrique de l'Ouest, à Dakar, au Sénégal. Je vous rappelle.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Voilà, je suis allée un peu plus vite que la musique. Notre débat ce soir porte sur les critiques formulées par une partie de la classe politique française après la condamnation de l'ancien président Nicolas Sarkozy à 3 ans de prison, dont un ferme par un tribunal correctionnel, notamment celui de Paris. Et nous avons 3 invités qui sont déjà en ligne. Jean-Paul Benoît est avocat au barreau de Paris et ancien député européen. Monsieur Benoît, bonsoir.
Bonjour à tous, je suis heureux de retrouver les auditeurs d'Africa Radio.
Merci, je dirais plutôt Maître Benoît. Nous avons également Stéphane Tiki, ancien président des Jeunes Populaires de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Monsieur Tiki, bonsoir.
Bonsoir. En fait, j'étais président des Jeunes Populaires, mais c'était en 2014. Aujourd'hui, je suis directeur du développement du groupement du patronat francophone.
Directeur du développement ?
Du groupement du patronat francophone.
D'accord. Mais en tout cas, c'est votre casquette politique hein, qui nous intéresse aujourd'hui, Monsieur Tiki. Votre passé hein, de membre de l'UMP, donc l'ancien parti de Les Républicains. Nous avons également professeur Alfred Toumba Chango, loco, qui est politologue, professeur à l'Université Sorbonne Paris 3. Professeur Chango, bonsoir.
Bonsoir.
Messieurs, permettez-moi de préciser hein, que cela soit clair pour tout le monde. Nous ne sommes pas ici ce soir pour parler du fond du dossier. Nous n'en avons pas, je crois, la compétence, même si Maître Benoît se sentirait peut-être beaucoup plus à l'aise. Et aussi, je rappelle que le dossier n'est pas vidé puisque M. Sarkozy a fait appel de cette décision. Je vais donc commencer peut-être par vous, Maître Benoît. Est-ce que vous comprenez les réactions de la droite qui ont suivi le verdict des juges du tribunal correctionnel de Paris contre l'ancien président Nicolas Sarkozy et comment vous expliquez ce que certains peuvent voir comme un déferlement de haine contre de la droite contre le tribunal correctionnel ?
Je crois qu'il faut rester très serein et très calme quand on parle de décisions judiciaires qui affecte les hommes politiques. Il y a un rituel en France dans ce domaine. Chaque fois qu'un homme politique est condamné, qu'il soit de gauche ou de droite, surgit l'hypothèse d'un complot des juges qui se serait acharné sur tel ou tel pour le condamner alors que cette condamnation apparaît ou est présentée comme totalement injuste et aberrante. dans le procès Sarkozy, sans entrer dans le fond du dossier, je n'ai pas connaissance du détail du dossier, je veux quand même rappeler quelques éléments techniques précis. Ce dossier, d'abord, l'enquête n'a pas été, l'enquête préliminaire, et ensuite l'instruction, n'a pas été conduite par le parquet national financier. L'instruction a été conduite par deux juges d'instruction indépendants, et pendant cette phase d'instruction, à juste titre, les avocats de M. Sarkozy et M. Sarkozy lui-même ont intenté des recours devant la Chambre de l'instruction, devant la Cour de cassation, pour contester notamment les écoutes téléphoniques, notamment l'utilisation des fadettes, et tous ces recours devant la Cour de cassation et devant la Chambre de l'instruction ont été rejetés. Donc M. Sarkozy et ses avocats, et c'est normal, ont eu droit, ont utilisé à juste titre tous les moyens légaux, juridiques qui sont en leur possession pour contester et accompagner le cheminement du dossier. Ensuite, le jugement est intervenu devant un tribunal de trois magistrats et magistrates, lesquels sont des magistrats et des magistrates indépendants et qui ont rendu une décision. Et le parquet national financier, qu'on met beaucoup en cause dans cette affaire, et ça c'est un autre sujet, on peut en parler, n'est intervenu que pour requérir. Ça n'est pas lui qui a décidé de la condamnation de M. Sarkozy. Alors moi je comprends très bien que M. Sarkozy soit mécontent de cette décision qui effectivement est relativement lourde.
Merci.
Et je trouve qu'il a tout à fait raison, et ses avocats aussi, et j'aurais été son avocat, j'aurais fait la même chose, d'interjeter appel. Donc la procédure d'appel est en cours, et jusqu'à ce que la décision définitive d'appel soit rendue, M. Sarkozy est présumé innocent.
Innocent, absolument.
Je vais ajouter d'un mot,
pour terminer,
chère madame, que je peux comprendre la nervosité de M. Sarkozy, parce qu'après ce procès, il va y avoir le procès Pygmalion, qui porte sur le dépassement considérable
de ses
frais de campagne. Ensuite, il y aura le dossier libyen, et il y a une nouvelle procédure qui s'ouvre à propos d'intervention sur des dossiers qui concernent la Russie. Alors moi, je comprends sa nervosité.
Merci.
Et
pour tous ces dossiers, maître, nous, le précision à nouveau, il est présumé innocent. Stéphane Tiki, vous, maître Benoît vient de dire qu'il comprend le mécontentement de l'ancien président Nicolas Sarkozy, mais il a également souligné que c'est presque une habitude au niveau des hommes politiques, à chaque fois qu'ils sont, on va dire, permettez l'expression, dans le pétrin judiciaire, on parle de complot des juges.
Écoutez, je suis déjà rassuré qu'on parle de présomption d'innocence parce qu'en écoutant la fin du discours de Maître Benoît, en citant les différents types de dossiers, j'avais plutôt l'impression que c'était une présomption de culpabilité. Or, il faut quand même rappeler qu'à partir du moment où on n'est pas condamné, on est présumé innocent.
D'ailleurs, il a rappelé que le monsieur Sarkozy ayant fait appel, il est présumé innocent.
Quand on entend qu'il a beaucoup de dossiers, on ne cite pas évidemment les dossiers dans lesquels il a été blanchi.
Mais c'est aussi la réalité. Non,
mais il a aussi des dossiers où il a été blanchi. C'est aussi une réalité, si vous me permettez. Mais c'est bizarre, personne ne parle jamais des dossiers où il a des non-lieux, où il s'en est sorti. Je pense que si on veut parler de tous les dossiers de Nicolas Sarkozy, il y a effectivement les dossiers dans lesquels il est mis en examen, ceux qu'ont cité Maître Benoît, mais aussi ceux dans lesquels il a été mis en examen, dans lesquels il s'en est sorti. Et ceux-là, il ne faut pas les oublier, parce que j'ai l'impression qu'on a la facilité à les oublier. Ensuite, si vous me permettez sur l'affaire, moi je ne suis pas... j'ai des propos toujours très mesurés, notamment sur la justice, donc je ne vais pas crier au loup, ce n'est pas du tout mon style. En revanche, il y a deux choses qui sont quand même un peu compliquées dans ce dossier-là, que M. Benoît a certainement dû oublier. La première, c'est la fuite du secret de l'instruction, parce que c'est quand même étrange que chaque fois les informations sortent dans la presse, avant même qu'elles soient sorties d'un point de vue du tribunal, puisque normalement c'est interdit. Et la deuxième chose, quand même, c'est
qui a quand même choqué pas mal de gens, hein, de journalistes, d'avocats et d'autres, que vous avez certainement dû oublier, c'est le fait qu'on écoute une conversation entre un avocat et son client, qui n'est pas tout à fait légal. Encore plus quand ce client-là était leader de l'opposition. Oui, ça pose effectivement un problème. Ensuite, pour répondre à votre question, madame, je ne pense pas que chaque fois qu'il y a eu un homme politique qui soit condamné ou autre, ce soit le pétrin. J'ai des exemples concrets à vous donner. Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud ou autre. Voilà, je pense que
Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, je pense
qui lui aussi avait, en son temps, c'était l'année dernière, avait parlé de
procès politique. Si vous me permettez, parce qu'on parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, mais rappelons qu'aujourd'hui, Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale, il est mis en examen. Rappelons aussi que Marine Le Pen est mise en examen. Rappelons aussi que François Bayrou, qui était ministre de la Justice et qui est aujourd'hui au commissaire, est mis en examen. Donc voilà, après, je pense qu'il faut laisser... Moi, j'ai confiance en justice, je crois que...
Mais pourquoi, au niveau de la droite, il y a eu comme s'il y avait un consensus autour de ce dossier pour dire que c'est un acharnement judiciaire, c'est un procès politique, allons jusqu'à parler de juge rouge, l'objectif étant de l'écarter, ont insinué certains au niveau de la droite, d'une possible candidature en 2022. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif ?
Je pense que les gens ont trouvé ce jugement, et moi d'ailleurs je fais partie, très sévère, parce que Nicolas Sarkozy, rappelons une chose, il avait déjà eu une histoire avec les juges. Rappelons qu'il y a quelques années, on avait mis en place le mur des cons, dans lequel les syndicats de la magistrature avaient mis des gens qu'ils considéraient comme être des cons, et Nicolas Sarkozy, alors que la République en faisait déjà partie. Ensuite, monsieur, tout à l'heure, parlait du parquet national financier, il a été créé par François Hollande. On avait aussi différents moments où on s'est rendu compte qu'il y avait des
dans l'existence est même remise en cause aujourd'hui, même contestée.
Dans l'existence est remise en cause. On se rappelle aussi évidemment de parce que autre Jérôme Cahuzac, on se rappelle surtout de François Fillon qui a été mis en examen en même pas deux semaines. Donc voilà. Et puis aussi on a aussi surtout vu beaucoup de personnes. Je sais pas d'ailleurs si vous avez suivi ce matin, il y a quelqu'un qui a été condamné 8 fois. Entre 2018 et 2019, qui est encore en liberté. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que...
Mais pour autant, est-ce que cela signifie qu'il y a un acharnement contre ces acteurs-là ? Aujourd'hui, on parle de Sarkozy, mais je disais également que vous avez cité d'autres, et j'ai parlé au cas de M. Mélenchon. Mais est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que la justice prononce une sentence ou une condamnation contre un homme politique, il faut forcément penser qu'il y a derrière je ne sais pas, un objectif visant à nuire à cet homme politique, à cette femme politique.
Je vais vous dire la vérité, madame, je préfère ne pas le penser. Ça sous-entendrait qu'il y aurait une justice politique. Alors moi, je crois en la séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Maintenant, après, il faut laisser la justice, mais souvent, ça peut mettre beaucoup la pression, notamment au niveau des juges, des magistrats, de la justice. Là, je pense que les gens parlent effectivement d'acharnement, parce que le jugement est effectivement sévère. Il n'y a pas eu de corruption, puisque en ayant lu un peu le dossier, l'intervention à Monaco n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de corrupteur, et d'ailleurs, le parquet national financier n'est même pas intervenu, puisqu'il n'y a aucun centime, ni aucun argent qui est... argent de quelqu'un ou de l'État qui a été pris dans cette affaire. Donc c'est vrai que le jugement est assez sévère, surtout pour un ancien président de la République.
Merci beaucoup, M. Tiki. J'avais souhaité qu'on ne note pas dans le fond du dossier. Nous y sommes presque, malheureusement. Et je vous propose de marquer une pause tout de suite. Et ensuite, nous entendrons notre troisième invité, le professeur Alfred Toumba Shango, sur ce qu'il pense des réactions que suscite la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment analyser les critiques formulées par une partie de la droite contre la justice française après la condamnation à 3 ans de prison, dont 1 an ferme contre l'ancien président Nicolas Sarkozy? 3 invités pour en parler. Stéphane Tiki, ancien président des Jeunes Populaires du UMP, aujourd'hui Les Républicains, et il est par ailleurs directeur du développement du groupement francophone. Et nous nous avons également Maître Jean Benoît, Maître Jean-Paul Benoît, voilà, qui est avocat au barreau de Paris, ancien député européen, et professeur Alfred Toumba Changoloko, politologue, professeur à l'Université Sorbonne Paris 3, que nous allons entendre à présent. Professeur, quel est votre commentaire sur ce concert de réactions suscité par la droite, suscité par la condamnation de Nicolas Sarkozy, notamment par sa famille politique, mais pas seulement. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment que les hommes politiques semblent réfractaires un peu à la justice ?
Liliane, avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler deux choses. La première, que le journal Le Monde d'aujourd'hui a publié les 100 pages des décisions, les motifs des décisions qui ont motivé la condamnation à 3 ans. Oui, oui, voilà, dont un ferme pour Nicolas Sarkozy. Il faut le rappeler, il a été condamné à 3 ans, dont un an ferme. Il a fait appel, donc on attend la décision d'appel dans un an, probablement. Ça, c'est un. Deux, Maître Jean-Paul Benoît a très bien situé les comportements, les attitudes des uns et des autres face justement à cette décision et aux critiques auxquelles elle donne droit. Pour ce qui est de la surréaction de la droite française, je voudrais simplement rappeler deux choses. Un, nous connaissons tous cet adage qui date d'il y a quelques siècles. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Ça, c'est un. Deux, on dit qu'il y a un acharnement vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Je ne crois pas. C'est-à-dire, la surréaction de la droite, de mon point de vue, est liée au moins à deux faits. Un, la désintégration de la droite, depuis justement que Nicolas Sarkozy est parti, l'élection présidentielle qui est en vue, et l'absence de candidats crédibles dans la droite française, qui espérait effectivement que Nicolas Sarkozy pourrait être son candidat à l'élection
présidentielle. Le rempart, disent certains, de la droite.
À venir.
Oui, en 2022.
C'est ça, voilà, qu'il aurait pu être leur candidat, et tout de suite d'ailleurs lui-même s'est empressé de dire qu'il soutiendrait un autre candidat, que la politique, il l'a déjà laissé derrière lui. Donc voilà pour moi ce qui est fondamental. Par ailleurs, que les politiques critiquent les décisions de justice, ça montre effectivement ce conflit qu'il y a entre, au fond, les politiques considèrent que malgré la séparation de pouvoir, que ce sont eux qui ont mandat public officiel que les Français leur confient et que par conséquent, s'ils doivent être sanctionnés, ils doivent être sanctionnés par les Français et non pas par la justice. Encore
mais pourtant,
moins,
ces mêmes politiques attendent de la justice et demandent à la justice d'être indépendante et d'avoir une attitude de tolérance zéro vis-à-vis des personnes qui sont hors la loi.
Exactement. Et donc, il y a une sorte de paradoxe dans le comportement des politiques. Tant qu'ils ne sont pas dans le collimateur de la justice, tout va bien. Quand ils sont dans le collimateur de la justice, ça ne va plus, qu'il y a un complot des juges qui sont... En réalité, le politique se considère un tout petit peu comme au-dessus de la loi. Et les juges leur rappellent, par leurs décisions comme celle-ci, qu'ils sont des justiciables comme n'importe quel autre citoyen, n'importe quel citoyen lambda de la République. Et que donc, ils doivent répondre de leurs actes s'ils sont... jugé délictueux devant la justice. Et je crois effectivement que tout le problème que soulève vraiment cette décision et d'autres de justice par rapport aux politiques, c'est cette question de l'exemplarité politique. Si on veut éviter effectivement de se retrouver devant les cours et tribunaux, il faut jusqu'au bout avoir ce comportement exemplaire. Or, dans ce cas-ci, Paul Bismuth n'a pas été exemplaire, malheureusement.
Et donc, Paul Bismuth, c'est-à-dire pour Nicolas Sarkozy, le pseudonyme.
Oui, exactement. Donc, je considère effectivement que la surréaction des politiciens de la droite française ou d'autres est exagérée.
Merci.
N'a pas lieu d'être par rapport à la situation actuelle, parce que le Français lambda qui vole un pain au chocolat, qui se retrouve devant le juge, il trouve ça normal. Mais qu'un politicien ait franchi la ligne jaune ou la ligne rouge, on trouve anormal qu'il soit interpellé par la justice, non ?
Merci beaucoup. Justement, ça me permet, hein, vous m'avez permis de faire cette transition. Maître Jean-Paul Benoît, quand on écoute le professeur Touba, l'impression qu'on a, c'est que les politiques sont prêts à donner les leçons, mais n'admettent pas que la justice leur rappelle leur comportement. Et du coup, ma question est celle-ci. Est-ce qu'en condamnant Nicolas Sarkozy, la justice française a franchi justement cette ligne rouge ?
Non, la justice française, Nicolas Sarkozy n'est pas le premier homme politique qui a été condamné. La justice française n'a pas franci une ligne rouge. La justice
il y a eu Chirac,
il y a eu Cahuzac, il y a eu
Monsieur un ancien chef d'État, quand même. Affaires,
etc., etc. Donc la justice a fait son métier. Je dis, quand on a des réactions aussi caricaturales, où on parle d'acharnement, de complot, c'est un aveu de faiblesse. Quand on veut discuter d'un dossier, on en discute calmement, en prenant point par point, en disant il y a eu une condamnation, étudions les raisons de cette condamnation, utilisons les voies de recours, et ne parlons pas de complot. Dieu merci, avec tous ses défauts, nous sommes dans une démocratie, et c'est sûr que la justice, dans sa très très grande majorité, est une justice compétente et indépendante. J'ajoute d'ailleurs que depuis 2013, le ministre de la Justice ne peut plus donner d'instructions individuelles aux procureurs, et que les procureurs eux aussi sont indépendants. Quand j'ai dit ça, il faut sans doute améliorer un certain nombre de choses. Bien évidemment, par exemple, je prends un exemple, les enquêtes préliminaires qui ne sont pas limités dans le temps et qui ne font pas l'objet de procédures contradictoires, doivent être réformées. C'est un des points, d'ailleurs, que propose M. Dupond-Moretti, ancien avocat. Actuel ministre de la Justice. Je pense aussi que Montesquieu avait une définition pour les juges qui me convient très bien. Il disait « les juges sont la bouche de la loi ». Les juges parlent de la loi, appliquent la loi, mais ne sont pas là pour développer une conception qu'ils auraient de la société et de la vie politique. C'est un autre sujet. Et le général de Gaulle avait une autre formule que je cite en disant « Pour moi, disait de Gaulle, la Cour suprême, c'est le peuple français. » Donc il ne faut jamais que les juges oublient qu'ils jugent au nom du peuple français.
Merci.
Donc pour me résumer, la procédure a été légale. Il y a eu des recours devant la Chambre de l'instruction, devant la Cour de cassation. La décision est une décision sévère. J'ajoute qu'un an d'emprisonnement, c'est un an aménageable. Il ne s'agit pas d'un emprisonnement dans une prison. Les juges l'ont bien précisé, aménageable. Il y a maintenant un appel. Moi, j'attends le résultat de l'appel et j'espère que M. Sarkozy l'attend avec sérénité.
M. Tiki, on l'a entendu, hein, le professeur Lecot parler de surréaction de la droite française et aussi, vous venez d'entendre les propos de Maître Benoît. Est-ce que finalement, on se dit que pour la droite, comme pour les autres hommes politiques français, la justice, c'est finalement pour les autres, mais pas pour eux ?
Non, la justice doit être la même pour tous. Après, évidemment, je ne suis pas totalement d'accord avec les propos précédents, notamment de la désintégration de la droite, puisque la droite a gagné toutes les élections depuis 2017. La droite est aujourd'hui majoritaire au Sénat, la droite a gagné les municipales, et aujourd'hui, on est encore en pole position pour gagner les régionales. Donc, parler de désintégration de la droite française, je ne suis pas du tout d'accord. Ensuite, moi, je suis tout à fait d'accord avec les propos de Maître sur la sérénité à avoir. Il y a eu un recours de justice. Maintenant, il faut attendre. Il y a un appel qui va se faire.
Mais est-ce qu'il y a cette sérénité-là aujourd'hui au niveau de la droite, quand on regarde, quand on écoute ce que la droite dit ?
Parce qu'il faut quand même laisser ses propos à Nicolas Sarkozy. Il n'a pas parlé, lui, de complot ou quoi que ce soit. Il a dit qu'il était serein et déterminé et qu'il va se battre lors de cet appel pour démontrer son innocence et qu'il ira jusqu'au bout pour démontrer son innocence. Ensuite, sur les hommes politiques condamnés, non, les juges n'ont pas franchi de ligne rouge, puisque Jacques Chirac a été condamné, Alain Juppé a été condamné, Jérôme Cahuzac,
François
Fillon et plein d'autres.
Oui, donc, mais peut-être parce qu'il s'agit là d'un ancien chef d'État. C'est
oui,
peut-être
mais
ça.
Oui, mais on a des anciens premiers ministres aussi, donc ce sont quand même des hommes d'État aussi qui ont été condamnés. Après, moi, je pense qu'on ne peut pas dire que tout soit parfait. D'ailleurs, si je peux citer le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui disait d'ailleurs lui-même que c'est tout à fait anormal qu'on puisse écouter la conversation entre un avocat et son client, et c'est tout à fait anormal qu'on puisse géolocaliser les avocats. Éric Dupond-Moretti lui-même, qui aujourd'hui garde des Sceaux, ce sont ses propres mots. Et après, je dirais, si vous me laissez terminer ma phrase, que ce n'est pas des réactions de droite française, puisque des personnes membres du gouvernement se sont exprimées dessus, des personnes membres du Front National, des personnes membres du Parti Socialiste, tous se l'ont dit de façon unanime.
Mélenchon aussi de la France Insoumise a même insinué que condamner Nicolas Sarkozy dégage la voie en quelque sorte pour Emmanuel Macron en 2022.
Écoutez, moi, je ne pense pas, parce que Nicolas Sarkozy avait toujours dit qu'il arrêtait la vie politique depuis 2016, à la fin de la primaire. Après, certains ont dit qu'ils voyaient en lui un recours pour porter la voix de la droite, mais lui, il l'avait dit dès le départ. Ensuite, chacun aura ses candidatures. Lui-même, il s'exprimera au moment venu pour soutenir tel ou tel candidat.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tiki. Alors, professeur Loco, vous parliez tout à l'heure de conflits entre les politiques et la justice. Quelles peuvent être les conséquences de cette situation, de cet état de choses qui s'accentue aujourd'hui avec l'affaire Sarkozy?
De toute façon, je crois que Maître Jean-Paul Benoît a commencé de répondre à cette question-là, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que la France est une démocratie. Et cette démocratie fixe les règles du jeu public et fait qu'effectivement, il y a ce principe de séparation de pouvoir. En même temps, il y a des choses qui sont améliorables dans la manière de rendre la justice. Et cela, chaque garde des Sceaux qui arrive essaie de corriger justement ces errements pour faire justement que la justice soit au-dessus de toutes les critiques. Mais quoi qu'il en soit, les politiques critiqueront toujours la justice quand ils seront impliqués ou...
On a même parfois l'impression que peut-être ils se serrent les coudes, parce que quand on écoute le soutien clair du ministre de l'Intérieur à Nicolas Sarkozy, certains de l'opposition ont sursauté en l'écoutant s'exprimer ainsi sur cette affaire.
Non, mais en fait, là, pour le ministre de l'Intérieur, sans vouloir le justifier, ça montre son embarras, puisque c'est son ami politique, et que donc... le moins qu'il pouvait faire, c'était justement de lui apporter ce soutien à minima, pour éviter justement, il a même dit qu'il ne commentait pas la décision de justice, qu'à cela ne tienne. Ce que la justice nous rappelle simplement, c'est que la loi, c'est la loi pour tout le monde. Elle est dure, mais elle est la loi pour tout le monde. Et que par conséquent, là, aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy... On a même oublié d'évoquer Édouard Balladur et Léotard qui vient d'être condamné lui aussi. Donc
vous pensez que cela ne va pas fragiliser la justice et faire peur peut-être aux juges, peut-être certains qui vont même peut-être aller jusqu'à refuser des dossiers lorsque cela concernera des hommes politiques? Ça ne va pas les effrayer?
Non, ça ne va pas les effrayer. Au contraire, voyez ce tribunal financier. Depuis sa création, ce parquet financier a toujours provoqué des réactions négatives. Qu'on pense à l'époque où Eva Joly le présidait, ou Renaud Van Ruymbeek, et chaque fois, il y a eu effectivement comme une sorte de réflexe grégaire des politiques pour se soutenir le coude, sauf quand... évidemment, comme dans les cas de Cahuzac, ça jetait l'opprobre sur toute la classe politique à cause de ces mensonges. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas que ça puisse nuire aux juges, parce qu'ils sont Et là, je suis tout à fait d'accord avec Maître Jean-Paul Benoît qui dit à 99%, tous les juges sont, rendent la justice justement, qui sont honnêtes, qu'ils rendent la justice droitement, sans considération partisane. Donc, il faut avoir foi, justement, en cette justice, hein, lui faire confiance. Et c'est très bien ainsi, parce que ça rappelle aussi à tout le monde, et surtout aux politiques, qui ne sont pas, j'insiste beaucoup là-dessus, qui ne sont pas au-dessus de la loi. Il y en a un qui, vous l'avez cité, qui disait « La République, c'est moi ». Bien. Sous prétexte que la police ne pouvait pas intervenir. Et pourtant, la police peut intervenir partout dès le moment où il y a une réquisition du juge.
Merci.
Donc,
désolé de vous interrompre, maître professeur Shango Loko. Nous allons marquer une courte pause et puis on va poursuivre notre débat sur les conséquences possibles de ce conflit quasiment ouvert entre la justice et les hommes politiques.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans le grand rendez-vous, ce soir, nous analysons les réactions et critiques suscitées par l'affaire Nicolas Sarkozy, qui a été coupé de 3 ans de prison ferme, dont 3 ans de prison dans un ferme dans l'affaire des écoutes, avec 3 invités, Jean-Paul Benoît, avocat, Stéphane Tiki de l'Union pour un mouvement populaire, l'UMP, donc nouveau Les Républicains, et il est également directeur du développement du groupement francophone. Et nous allons redonner la parole au professeur Loko pour terminer vos propos sur, je vous parlais des conséquences à l'avenir sur le fonctionnement de la justice française, avec cette réaction virulente suscitée par l'affaire de la condamnation de Nicolas Sarkozy.
Donc, je disais effectivement que les juges ne sortent pas, sortent grandis de toute façon dans cette affaire-là. Les politiques moins, parce que ils font comme si c'était une corporation qui était au-dessus, au fond de la loi, et que les juges les leur rappellent simplement. Mais en réalité, ce que ça nous montre aussi, c'est que c'est une question de confiance. Confiance de la population, des Français, vis-à-vis de leur politique, de ces responsables politiques dont ils attendent quand même l'exemplarité de comportement, c'est-à-dire un respect quand même de l'éthique en politique, et de respect du droit aussi, en quelque sorte.
Merci.
Et alors, chaque fois qu'il y a comme ça des affaires qui surgissent, ça heurte beaucoup. Et au fond, les juges, quand ils sont saisis de ces affaires-là, ils essaient de tirer les choses au clair. Par conséquent, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur...
Merci, professeur Loko. Maître Benoît, vous pensez que cette affaire, ce tollé ne va pas fragiliser la justice, qu'elle en sortira plus forte de ces critiques?
Oui, tout à fait. Je vais vous répondre à la fois comme avocat et homme politique, puisque j'ai été parlementaire européen et vice-président d'un parti politique. Je remarque toujours, d'ailleurs, que c'est les gens qui sont en faveur de la tolérance zéro qui sont les plus tolérants pour leurs propres infractions. C'est une constatation banale, mais il est bon de la rappeler. Un mot de politique, et après je viens à ça. Notre ami a dit que l'UMP avait gagné toutes les élections. Je voudrais simplement rappeler qu'ils n'ont pas gagné l'élection présidentielle ni les élections européennes. Et que, certes, M. Sarkozy pouvait apparaître comme un recours, mais que c'est lors des primaires de la droite, M. Sarkozy a été éliminé lors de ses primaires.
Dès le premier tour.
Qui a été le candidat. Alors, il ne faut pas réécrire l'histoire et l'enjoliver. Et en plus, moi, je serais inquiet si j'étais à la place de cet ami de la droite qui vient de parler, de constater que c'est Marine Le Pen qui est venue au secours de Nicolas Sarkozy. La boîte de sauvetage de Marine Le Pen, moi, ça m'inquiète un peu. Alors, est-ce que cette décision va provoquer une sorte de séisme entre l'opinion, les Français et leur justice? Non. Je dis non. Certes, il y a des sondages qui montrent que un certain nombre de Français, 40-45% des Français, n'ont pas une totale confiance dans leur justice. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, qu'il faut, sur un certain nombre de procédures, les améliorer, les moderniser, les rendre.
Justement, ce type de réaction de la classe politique ne renforce-t-elle pas la conviction de ceux qui pensent justement que la justice n'est pas indépendante
non,
en France ?
Non, je ne crois pas. Je crois au contraire que ça sert les juges et ça dessert la classe politique, parce que, je reprends cet adage, tout ce qui est excessif est vain. Et ces réactions caricaturales d'un certain nombre de politiques excessives, au contraire, vont à l'encontre de ce qu'ils veulent démontrer. Et je dis que M. Sarkozy est injusticiable comme les autres. Il a le droit de trouver que sa condamnation est trop lourde. Il a le droit de dire qu'il est innocent, et il l'est peut-être, et il l'est même sans doute. Il a le droit de faire appel. Donc tout ça est normal. Merci. N'en résultons pas. Et restons dans une... un examen serein sur des sujets aussi primordiaux que la justice.
Merci
et on voit bien qu'on est dans une démocratie, parce qu'on ne serait pas dans une démocratie. D'abord, il n'y aurait pas de justice. Et s'il y avait des décisions de justice, qui seraient des pseudo-décisions de pseudo-justice, on ne pourrait pas les critiquer et on ne pourrait pas faire appel. Alors, soyons heureux de vivre dans la démocratie française avec tous ses défauts et gardons la mesure.
Stéphane Tiki.
Au propos précédent, j'ai jamais dit que Nicolas Sarkozy n'avait pas perdu la primaire, et j'ai même précisé qu'il a perdu la primaire au premier tour. J'ai simplement rajouté que certains considéraient que Nicolas Sarkozy était un recours. Je n'ai pas dit que Nicolas Sarkozy était un recours, j'ai dit que certains le considéraient. Et c'est d'ailleurs pour ça que la question de Madame la journaliste demandait est-ce que le fait que Nicolas Sarkozy ait été condamné ne va pas gêner Emmanuel Macron. Donc il ne faut pas me prêter des propos que je n'ai pas tenus. Ce serait bien de ne pas réécrire l'histoire quand même.
C'est ce qu'a affirmé M. Mélenchon de la France Insoumise.
Voilà. Dire que, on a une
j'ai bien attribué à M. Mélenchon qui a dit la condamnation de Sarkozy accroît, il a dit que ça accroît le malaise politique et que c'était un bon débarras pour M. Macron en 2022.
Je suis tout à fait d'accord avec votre question. Et juste pour terminer, pour répondre à monsieur sur la dernière partie de sa question, qui était de dire qu'on a pris une bouée du Front National. Cher monsieur, si vous me permettez, il n'y a pas que le Front National qui a réagi. Il y a des députés En Marche, des partis majoritaires qui ont réagi. Il y a des députés Front de Gauche qui ont réagi. Et des partis,
je viens d'ailleurs de parler de ministre de l'Intérieur qui a aussi réagi.
Voilà. Quasi un soutien amical. Mais c'est pour dire que ne dites pas bois du Front National, puisque quand il y a des gens de tous bords politiques qui ont réagi sur ce sujet-là.
Maintenant, sur les conséquences de cette affaire sur le fonctionnement de la justice, et aussi peut-être pour terminer, comment réconcilier peut-être la justice française et la classe politique ?
Moi, je pense qu'il faut laisser la justice travailler de façon indépendante. Voilà, Nicolas Sarkozy a été condamné le lundi. À partir de mardi, il a fait appel. De ce fait-là, de toute façon, la condamnation devient donc caduque, puisqu'il reprend avec un dossier, avec un casier judiciaire vierge pour recommencer cette nouvelle bataille. Ensuite, on verra ce que la justice décidera. Voilà, il faut faire confiance à la justice. Et c'est vrai que là où je suis d'accord à peu près avec tout le monde, c'est qu'il est tout à fait aberrant que dès que c'est une décision de justice qui ne nous convient pas, de dire qu'il y a un acharnement ou que la justice est politique. Moi, je ne crois pas à la justice politique. J'ai dit dès le départ, je pense qu'il faut laisser... laisser travailler les juges. J'ai trouvé effectivement que le jugement était un peu sévère. Voilà, mais on ne rentrera pas dans le fond du dossier, puisque nous ne le connaissons pas d'ailleurs, ni les uns ni les autres. Voilà, mais je pense qu'il faut que les politiques respectent les décisions de justice. Et si on veut des justices irréprochables, par exemple, mais j'entends personne crier au loup d'avoir un président de l'Assemblée nationale qui soit mis en examen. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait dire que quand on était mis en examen, même si on est présumé innocent, bah, peut-être qu'on ne peut pas occuper ce genre de fonction. Mais je pense qu'il faudra déjà que ceux qui donnent des leçons aux autres s'appliquent leur propre leçon eux-mêmes et montrent l'exemple. Et c'est malheureusement pas beaucoup le cas aujourd'hui. Quand on voit par exemple François Bayrou qui était ministre de la Justice, qui était au commissaire, qui est aujourd'hui au commissaire au plan, alors qu'il est quand même mis en examen. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça, mais je pense qu'il y a pas mal d'imperfections au niveau de la justice. Tout à l'heure, un monsieur disait que lorsqu'un individu lambda est condamné, bah, lui, il n'a pas le même traitement. C'est normal que Nicolas Sarkozy soit traité comme tous les autres. Tout à fait, Nicolas Sarkozy est injustifiable comme tous les autres. En revanche, il y a quand même un vrai souci au niveau de la justice, puisque d'ailleurs, ce matin, on expliquait que quelqu'un a été condamné 8 fois entre 2018 et 2019 et qu'il était encore en liberté aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques petits soucis au niveau
de la justice. Il faut réajuster. Merci.
Professeur Chang,
en 30 secondes, vous avez espoir que demain, il y aurait de meilleures relations entre politiciens et la classe politique et que les politiciens accepteraient de plus en plus les décisions les concernant?
Pour que cela soit possible, il faut que les responsables politiques soient responsables, qu'ils soient exemplaires et qu'ils se comportent comme l'exige justement la fonction auquel ils ont droit. Sinon, les juges se mêleront toujours de la politique dans la mesure où ils seront en infraction. Moi, je crois en l'impartialité de la justice. Et les tensions politiques qu'on voit aujourd'hui sont liées justement au fait que les politiciens n'ont pas encore ou peut-être pris conscience effectivement qu'ils sont des justiciables comme tous les autres.
Merci,
et qu'ils doivent se comporter en conséquence.
Merci beaucoup, professeur Toumba Chango, politologue. Merci à maître Jean-Paul Benoît, avocat, et Stéphane Tiki de l'UMP et directeur du développement du groupement francophone d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.